Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, en lien avec notre dernière émission sur le Kyudo, on va partir à la rencontre des mythiques guerriers japonais, les samouraïs.
Ouais.
Bah oui, on avait parlé des ninjas il n'y a pas si longtemps.
Ouais, c'est ça.
Et Didier, tu nous emmèneras en Corée, toi.
Tout à fait.
Voilà, on va découvrir toutes les couleurs.
Coloré,
ça va être coloré. Les couleurs qui sont des symboles indissociables de l'âme coréenne.
Exactement.
Alors, comme les ninjas, les samouraïs nous fascinent toujours. La preuve est dans les grands succès des séries, des mangas, des jeux vidéo, et qui racontent un peu leur histoire. Alors, samouraï, ça veut dire celui qui sert.
Mmh.
C'était des grands guerriers lettrés, très important ça, indomptables, inflexibles, souvent fanatiques, avec un courage et une endurance extraordinaires, d'une loyauté et d'un sens de l'honneur à toute épreuve.
Ouais.
Ils suivaient la loi du sabre, le fameux code Bushido, qui est aussi la voie du guerrier surtout.
Mmh.
Bushi veut dire guerrier, et c'est le nom de la classe au sommet de la hiérarchie sociale, les nobles, qui comprend les shoguns, les daimyo et donc les samouraïs. Cette classe avait le pouvoir de vie ou de mort sur les autres classe, ça c'est important de le savoir.
D'accord.
La classe Bushi. Alors, comme nos chevaliers du Moyen-Âge, ils sont apparus, les samouraïs, dans le cadre d'une société féodale fondée sur la relation d'allégeance d'homme à homme. Nous, on a connu ça en France. Qui découle du partage des pouvoirs octroyés par un souverain qui, de ce fait, s'en trouvait affaibli.
Mmh.
À force. Alors, à noter que la féodalité est un système quasi exclusif en Europe et au Japon.
Ah oui.
Oui, il faut savoir, c'est un point commun.
D'accord.
Qu'on a avec le Japon. Les seigneurs donc étaient les shoguns et les daimyo, et le souverain c'était l'empereur.
Voilà.
Alors il faut savoir que selon les époques, les comportements et les mentalités des samouraïs étaient différents selon les rangs qu'ils occupaient.
D'accord. Alors depuis quand parle-t-on de samouraïs? Et à quelle époque ils sont apparus en fait?
Alors, les samouraïs ne sont évidemment pas les premiers guerriers du Japon. C'est au 1er siècle de notre ère, bien après l'Occident et la Chine, qu'on parle des samouraïs. C'est quand même plus tard. Alors, il y a donc un peu moins de 1900 ans qu'un pouvoir politique va progressivement s'exercer sur un territoire plus vaste que celui d'un clan ou d'une tribu. Alors, oui, c'est un petit peu compliqué, mais au 7e siècle, les Japonais vont ensuite s'inspirer de la Chine en mettant l'empereur au pouvoir.
D'accord.
Mais très vite, les ambitions de cet État centralisé vont toucher leurs limites.
Ouais.
L'empereur va alors concéder des terres à titre provisoire à des familles aristocratiques et à des temples.
D'accord.
Des temples assez puissants pour avoir des revenus fiscaux.
Eh oui, comme
d'hab. Et je dirais, le mal était fait, c'est-à-dire qu'on parle, je dirais, d'un souverain qui a du pouvoir, un souverain, du coup, qui ne va plus avoir de pouvoir. Et les seigneurs ne rendront jamais leurs terres à l'empereur. Et
comme
pour garder
étonnant.
Ces terres offertes ou vendues par l'empereur, ses propriétaires vont alors constituer des milices armées pour se défendre contre l'État et contre les autres seigneurs.
D'accord.
C'est ça, le système féodal. Et ça va durer au Japon du 12e au 19e siècle jusqu'à l'ère Meiji.
Okay.
Je rappelle l'ère Meiji, c'était en 1868.
Mm-hmm.
Alors on se souvient bien sûr, Didier, de l'histoire du dernier samouraï, Jean Brunet.
Oui, c'est vrai.
On fait une petite pause musicale pour méditer là-dessus. C'est Ikue Asazaki et c'est Obukuri Eumi.
On écoutait Ikue Asazaki, une très jolie chanson, douce,
une
qui nous ramène...
Une chanson d'amour, je crois.
Ah, j'imagine. Et vous êtes toujours avec Asialogie et sur Radio Alpa 107.3. Et on va retourner vers l'origine des samouraïs. Ils étaient comme donc des miliciens au service d'un shogun, d'un daimo, non ?
Alors oui, c'est peut-être un petit peu confus.
Ah, alors tu vas tout nous dire.
Voilà, voilà, oui. On peut dire que les samouraïs étaient, je dirais, les membres d'une milice privée, en
D'accord.
fait, d'un daimyo ou d'un shogun. Les daimyo étaient souvent, enfin, étaient des samouraïs qui
oui.
possédaient beaucoup de terres, et le shogun, souvent un ancien daimyo. C'est une forme de hiérarchie, on peut dire. Ah, et donc, un ancien daimyo, qui était donc un militaire, un peu comme un général,
D'accord.
qui avait gravi les échelons du rang de samouraï, petit à petit, jusqu'à celui de daimyo. Et le titre de shogun, bien que nécessitant techniquement l'approbation de l'empereur, c'était un titre héréditaire, transmis au sein du même clan, jusqu'à
D'accord.
leur renversement.
Okay.
Le shogun possédait à la fois le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Faut pas l'oublier. Alors, il y avait plusieurs daimyo, mais un seul shogun.
Ouais.
Et l'empereur n'avait qu'un pouvoir spirituel, mais le pouvoir de nommer le shogun. Voilà,
ouais.
J'espère que j'ai bien planté le décor.
Okay.
Alors, d'autres daimyo étaient d'anciens samouraïs qui s'emparaient des terres d'autres daimyo, donc ils arrêtaient quand même pas de se battre, hein, ou se voyaient attribuer leur domaine par le shogun pour bon service. Donc, un samouraï pouvait devenir daimyo, puis
okay.
shogun.
Ouais, je t'ai suivi jusque-là.
Voilà, tu m'as suivi.
Ouais.
J'espère que les auditrices et les auditeurs
Mais
aussi.
Mais oui, bien sûr. Moi, je suis l'auditeur lambda, donc je comprends comme les auditeurs. Il n'y a pas de souci, tout va bien.
Merci, Alors,
Ils ne devaient pas dormir tranquille, par contre, ces shoguns, ces daimyo et ces samouraïs, non ? Avec cette facilité de grimper les échelons, la violence qui va avec et tout.
Oui, c'est sûr. C'est donc le système féodal,
ouais,
comme je le dis au début, hein, basé sur l'allégeance et la loi du plus fort, quand même.
Oui,
donc le shogun était très puissant, puisqu'il avait la plus grande armée. Et si un daimyo s'écartait du droit chemin, le shogun ordonnait aux autres daimyo d'attaquer le seigneur insubordonné.
Ouais.
C'est pour ça qui dormait pas tranquille, comme tu
C'est
disais.
Ça.
Alors, ce qu'ils faisaient sans hésiter, bien sûr, puisque cela leur permettait aux daimyo d'étendre leurs propres terres.
Bah, tiens.
Alors, à savoir que le titre de daimyo était héréditaire, mais leur position ne pouvait être garantie que par la possession d'une puissante armée aussi. Contrairement au shogun, qui, lui, avait la plus grande armée.
D'accord.
Alors, à l'origine, les samouraïs, eux, n'étaient pas strictement héréditaires, car même un modeste paysan pouvait le devenir s'il se montrait redoutable au combat et obtenait de grands succès pour son seigneur. Ce n'est qu'au XVIe siècle, par un décret de Toyotomi Hideyoshi, un grand shogun,
D'accord.
le deuxième des trois grands shoguns, que les samouraïs sont devenus strictement héréditaires.
Ouais,
alors,
oui.
Oui, voilà. Et il faut se souvenir que les samouraïs suivaient les daimyo suivaient le shogun.
Oui.
C'est ça, la hiérarchie.
D'accord. Mais alors, en fait, le samouraï, il passait son temps à faire la guerre, quoi.
Bah, souvent. Un samouraï, c'était donc un guerrier de rang moyen dans l'armée.
Oui.
Et en temps de paix, c'est normalement un gros paysan propriétaire,
lettré,
bien sûr,
oui.
avec un petit lot de terre concédé et garanti par son daimyo. Alors, la terre qu'il fait exploiter par des paysans qu'il peut recruter... comme soldat, si besoin.
D'accord.
Alors, bien sûr, il y a quelques-uns de ces samouraïs qui sont propriétaires de grosses exploitations,
oui.
qui peuvent commander à des bandes de quelques dizaines d'hommes, et on peut les considérer comme des petits ou enfin des seigneurs de
oui.
guerre.
Locaux,
voilà.
quoi.
Alors, ces bandes armées s'appelaient les Bushidan.
D'accord. Bah, ça, alors, tout ça me fait dire que ça ne devait pas être facile pour les shoguns de contrôler tout ce petit monde quand même, hein, avec les daimyo, leurs samouraïs et tout.
Alors oui, non, c'était des conflits incessants qui ont probablement empêché le Japon de se moderniser.
D'accord.
Mais malgré notre fascination pour les samouraïs et le Bushido, il ne faut pas oublier que beaucoup d'autres parties du monde entraient dans la modernité à ce moment-là, y compris la Chine et la Corée, qui étaient plus en avance que le Japon.
D'accord.
Et ce sont ces conflits incessants et la pression occidentale qui ont mis fin à l'âge d'or des shoguns et des samouraïs. Faut pas oublier que les shoguns ont gouverné le Japon pendant plus de 700 ans,
oui.
Hein, du 12e siècle au 19e siècle. Mmh. Alors, durant ces 7 siècles de système féodal, il y a eu 3 shogunats importants qui se sont succédés, le Kamakura, le Ashikaga et le Tokugawa shogunate, qui a gouverné le Japon de 1603 à 1868. Ça, c'était un des très très grands shogunats, le Tokugawa. Mmh. Et cette période s'appelle l'époque d'Edo,
oui.
L'ancien nom de Tokyo.
Oui, c'est ça. D'accord. Alors là, quelque chose me dit qu'on approche de la fin des samouraïs, là, non ?
Oui,
qu'est-ce qui a pu entraîner leur chute, là ?
Alors, la fin des shoguns a entraîné forcément la fin des samouraïs, et la chute des shoguns a été en partie liée aux nobles nationalistes favorables à l'empereur,
oui.
Et à l'influence de certains daimyo. Il y a eu aussi les pressions occidentales, faut pas oublier
oui,
ça,
bien sûr.
Pour en finir avec l'isolationnisme instauré et maintenu par le shogunat. Alors c'est une période mouvementée hein, qui s'est terminée en 1867 avec la restauration de Meiji, un mouvement qui a restauré le pouvoir impérial et mis fin au système féodal.
D'accord.
C'est cette transition qui a marqué le début de l'ère moderne du Japon. Cette constitution d'un État centralisé a mis fin à la structure féodale avec l'empereur comme chef politique et avec l'avènement du nationalisme et de l'impérialisme japonais.
D'accord.
Alors, est-ce que c'était une bonne chose, la fin des samouraïs ?
Ça.
Ah. Voilà. Bon, Didier, avant de découvrir l'importance des couleurs en Corée, on va se faire une pause musicale.
Oui.
Une petite pause musicale pour se mettre dans l'ambiance des couleurs coréennes.
Tout à fait. Je vous incite à bien écouter parce que là, ça introduit très, très, très bien.
Oui, on va apprendre du coréen en
voilà.
plus.
Voilà. Alors, on vous laisse écouter.
Couleur, c'est calme, noir comme jaune, bleu, pas langue, brun, calme, sec, gris, ouais, sec, vert, chaud, long, orange, orange, rouge, pâle, gang, blanc, jaune, no, lang, violet, pola, sec, rose, bonhomme, sec. J'ai les cheveux noirs. Le ciel est bleu. J'aime le orange. La main orange, le jaune. Votre chat est blanc. Dancing, we go young in a min segiayo.
Alors, c'était comment apprendre les couleurs en coréen.
Exactement.
Je sais, j'ai surtout entendu le français, Didier.
Ah bah oui.
C'est dommage.
Ah bah non, mais il y avait tout.
Il fallait tout.
Voilà, c'est ça. Il fallait être très attentif et puis pour pouvoir tout comprendre
tout,
des
et
couleurs.
Tout retenir.
Voilà. Tout retenir, je sais pas, mais on va faire une piqûre de rappel de toute façon là.
je sais pas.
On est d'accord.
En tout cas, toi, tu vas nous expliquer. En quoi, en Corée, les couleurs sont si importantes ?
Eh oui, elles sont partout en Corée, les couleurs. Dans les palais, dans la cuisine, sur la table, sur les magnifiques tenues traditionnelles, les hanbok. Les couleurs font partie intégrante de la culture et des croyances depuis plus de 1000 ans. Elles ont bien sûr une fonction décorative, mais elles possèdent chacune une signification bien particulière et symbolique.
Alors, quelles sont-elles, ces couleurs traditionnelles ?
Bah, d'abord, l'origine des cinq couleurs traditionnelles se trouve dans la théorie du yin et du yang, et des cinq éléments de l'univers. Et donc, les couleurs traditionnelles fondamentales sont au nombre de cinq. Le rouge, le noir, le bleu, le blanc et le jaune. Et si on les retrouve aussi au Japon et en Chine, ces couleurs ont toutefois des nuances, des usages et des significations spécifiques à la Corée.
Alors, est-ce qu'il y aurait des couleurs secondaires aussi,
et oui,
en plus de ces couleurs traditionnelles?
Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, oui. Comme pour nous, avec les couleurs primaires, la combinaison de deux couleurs fondamentales donne deux nouvelles séries de cinq couleurs secondaires. C'est ainsi que sont obtenus par exemple le vert, le rose fuchsia, l'ocre jaune et enfin le violet, que l'on retrouve aussi souvent sur les objets et vêtements traditionnels coréens.
Oui, donc il y a les couleurs traditionnelles, les couleurs primaires et les couleurs secondaires.
C'est ça, exactement.
Et que symbolisent ces couleurs, Didier ?
Alors, important à retenir, chaque couleur symbolise un des cinq éléments de la nature, un point cardinal et une saison auquel il faut ajouter un animal gardien. Donc alors, le rouge, on commence par le rouge,
d'accord,
qui représente le feu, le sud et l'été.
On s'en doutait un peu.
Oui, il y a des couleurs comme ça. Hein. L'animal gardien correspondant, c'est l'oiseau ou le phénix.
Ah, donc c'est un peu féminin ça, le rouge.
Ah, le rouge représente l'autorité, la création et la poursuite du bonheur. Cette couleur aurait aussi, d'après les croyances chamaniques, la propriété de repousser les esprits malins, les mauvaises énergies et la malchance.
Donc il faut porter du rouge.
Ben voilà, c'est plutôt pas mal de porter du rouge. Hein. Donc passons au noir maintenant.
Ah, oui.
Le noir symbolise l'eau, et le nord et l'hiver. Donc,
ah, oui.
Le totem associé, c'est la tortue. Alors là, forcément, j'en connais une qui écoute la mission, qui adore ça, c'est ma fille, c'est la tortue. Donc elle va être très attentive. Le noir a été tout le temps assimilé à des significations, à des connotations négatives comme l'obscurité, la nuit, la mort. Mais durant la dynastie Joseon, le noir représentait aussi la sagesse, la dignité et la solennité.
Oui, c'est ça, faut pas se fier... Faut aller voir derrière.
C'est ça, voilà, faut pas se fier que aux premières choses qu'on voit,
oui,
en premier lieu. Donc le bleu. Et toutes ces nuances représentent le bois, l'est et le printemps.
Le bois.
Oui. L'animal gardien, c'est le dragon.
Ah oui, c'est vrai.
À savoir que,
oui,
que le vert...
Cette année, c'est le dragon bleu.
Voilà. C'est vrai, tout à fait. À savoir que le vert est considéré comme une nuance de bleu, et le bleu signifie le printemps, la jeunesse, la vie et la nature.
D'accord, donc si on met du bleu...
Bah, on est dans la jeunesse.
Dans la jeunesse.
Peut-être que je vais mettre plus souvent du bleu.
Donc voilà.
Le blanc, maintenant, correspond au métal, à l'ouest et à l'automne. Le totem, c'est le tigre. Eh oui, tigre blanc. Le blanc signifie, entre autres, la vérité, la pureté, la sobriété. Cette couleur représente aussi la droiture et l'intégrité. Elle était associée au deuil, mais aussi remplacée aujourd'hui par le noir.
Oui, c'est ça. Et à une époque...
C'était la couleur du deuil.
Voilà. Mais actuellement, en Corée, les gens, enfin les personnes, lors d'un d'obsèques, portent du noir, comme...
Oui, c'est ça.
Je dirais comme en Europe.
Ça, c'est un peu occidentalisé,
même si,
ça, oui.
Même si on porte de moins en moins de noir.
Oui, mais bon, ça reste la couleur du deuil.
Ça reste la couleur du deuil.
Voilà. Oui. Le jaune symbolise la terre et le centre. Il est associé à la royauté. Il n'y a pas d'animal gardien pour cette couleur, non. Enfin, le jaune est associé à la fertilité, la richesse et la sainteté.
Oui, c'est vrai, les moines sont souvent des robes jaunes.
Jaune, orangé, oui, c'est ça. Grande particularité que l'on retrouve sur le drapeau des deux Corées, le rouge et le bleu sont également associés au yin et au yang. Et aussi
vrai.
Le violet, qui est souvent associé à la spiritualité, à la noblesse et la dévotion. Le rose, lui, représente l'amour et la féminité.
Ça doit être universel. Alors, en fait, excepté le noir, toutes les couleurs sont positives. Et
oui.
Encore, le noir, on peut
dire
voilà,
il faut le mitiger, mais
il est mitigé.
C'est ça.
Voilà. Donc, on peut s'habiller de n'importe quelle couleur, en fait.
Ah non. Non. Parce que les couleurs ont une influence qu'il ne faut pas ignorer dans la vie quotidienne. Par exemple, l'association des couleurs traditionnelles utilisées dans la conception du hanbok ne révèle, ça revient pas du hasard ni des envies du fabricant de vêtements. Non. C'est étudié, c'est une grande attention pour faire ressortir la signification adéquate. Protéger, assurer le bonheur, mettre en avant une qualité de la personne et cela encore plus particulièrement au moment important comme la naissance, le mariage, les funérailles ou les cultes des ancêtres.
C'est vrai qu'on avait parlé du Hanbok dans une de nos émissions du début de la saison.
Eh oui.
Et oui, les couleurs ont beaucoup d'importance. Tout le Hanbok n'a pas changé depuis des siècles. Hein, c'est un vêtement qui a très peu évolué au cours des siècles. Mais en tout cas, au travers des couleurs, on peut lui faire dire beaucoup de choses au Hanbok.
Tout à fait. Bon, alors.
Tu peux nous donner des exemples, Didier ?
Ah, bah, je peux, bien
par
sûr.
Par exemple, pour les vêtements, les couleurs.
Par exemple, jusqu'à la colonisation japonaise au début du XXe siècle, la mariée portait une robe qui associait le rouge et le bleu qui symbolisaient le yin et le yang.
Mmh.
Alors, le rouge très présent sur la robe devait également permettre de repousser les mauvais esprits, puisqu'on en a parlé tout à l'heure.
Oui.
C'était aussi pour cela qu'on imposait 3 points rouges sur les joues et le front de la mariée.
Oui, donc il faut vraiment porter du rouge.
Voilà, c'est ça. Et que les chamans portent souvent des vêtements rouges, et forcément. En dehors des fêtes spéciales, à cette époque, les couleurs des vêtements étaient des indicateurs de classe sociale, du statut et de la fonction dans l'espace public. Le peuple portait généralement un hanbok blanc ou d'une couleur terne, alors que les nobles portaient des vêtements très colorés, symboles de leur richesse et de leur statut.
Oui, on peut voir ça dans les séries. Hein. C'est
chatoyant.
C'est très chatoyant, c'est très magnifique. Hein. Franchement, rien que pour les costumes, il faut regarder, Mr. Queen.
Ah, mais là, de toute façon, on l'a perdu, la Corinne,
Mister
avec toutes les séries.
Un de mes préférés, drôle, ouais, non, beau, tout.
Non mais elle m'initie.
Je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec moi.
Oh, je me doute bien. Et ceux qui seraient d'accord, eh ben ils peuvent nous en parler sur Facebook.
C'est vrai.
Hein? Alors oui.
Désolé Didier.
Non, pas de souci.
J'ai pas pu m'en empêcher.
Tu as bien fait. Donc
oui.
On retrouve cette symbolique dans l'art et l'architecture.
Oui, bien sûr.
Et ça s'appelle le Danchang, qui signifie rouge et vert. Tous les palais, les temples bouddhistes, les bâtiments publics importants étaient peints en rouge et vert, avec des motifs géométriques qui ont une signification symbolique comme la longévité, le bonheur, l'intégrité, la bonne fortune et la fertilité.
Oui, donc c'est le Danchang, c'est la peinture en fait, c'est ces décorations qui s'appellent comme ça.
C'est ça.
D'accord.
Alors, en plus de la fonction décorative, ces peintures rouges et vertes étaient appliquées pour protéger les bâtiments de la pluie, du vent, de l'exposition du soleil et des insectes. Il faut savoir que les maisons et les bâtiments privés ne pouvaient pas être colorés, eux. Attention.
Oui, bah oui, il y avait que l'empereur qui avait le droit aux couleurs. Et dans la cuisine, ça donne quoi, Didier ?
Alors,
les couleurs, parce que c'est vrai, on en a parlé aussi.
Oui,
la
on en avait un peu parlé
coréenne.
Dans une émission précédente. Bah oui, parce que c'est
là,
quand même
tu peux nous
la 25e, on en a quelques-unes derrière nous. Alors oui,
c'est
on en a
vrai.
Parlé, c'est ça.
Oui.
La cuisine coréenne accorde une grande importance aux couleurs et à l'harmonie des couleurs au sein d'un même plat ou sur une table. L'exemple de plat le plus connu pour son association de couleurs, c'est le bibimbap. C'est un grand bol rempli de riz, recouvert de légumes colorés, finement coupés et rangés, qu'il faut ensuite mélanger avant de manger.
Oui, c'est vrai, c'est très beau quand on le prépare ou quand on se le fait servir dans un restaurant.
C'est ça. Certains plats ou aliments sont aussi choisis à l'occasion d'événements particuliers en raison de leur couleur. Par exemple, au moment du solstice d'hiver, les Coréens mangent traditionnellement un porridge de haricots rouges, le rouge ayant la propriété d'éloigner les mauvais esprits et la malchance à nouveau.
Alors, tu peux nous dire quelques mots sur le riz, parce que c'est blanc le riz, il a beaucoup d'importance dans la cuisine. Est-ce qu'il a une symbolique particulière, Didier ?
Oui, très particulière sa signification. Alors, le riz est considéré comme très précieux, car la cuisine du riz crée l'harmonie entre les 5 éléments.
Oui.
Donc, en effet, la terre produit le riz. Le riz est bouilli par l'eau dans une marmite,
donc la terre,
ou une casserole en métal ou en bois.
Le métal.
Et le bois et l'air produisaient le feu. Le riz blanc est particulièrement utilisé lors des rites liés au culte des ancêtres afin de faire preuve de respect, de pureté et de dévotion envers l'univers.
Oui, donc ça c'est vraiment important. Donc c'est la terre, l'eau pour le bouillir, le métal.
Le métal pour la casserole, le bois pour le feu et la combustion.
Et l'air.
Et l'air qui aussi produisait le feu.
Alors
on a tout, ça rassemble
tout.
On a tout. Alors aujourd'hui, même si la théorie du sens des couleurs a perdu de son importance dans la vie des Coréens, elles sont toujours une part importante de la culture coréenne. C'est important de savoir pour comprendre un peu plus la culture coréenne.
Oui, bah c'est vrai que quand on va en Corée, Enfin, je connais des gens qui y sont allés, j'ai eu ce bonheur d'y aller. C'est quand même ce qui nous surprend le plus, de voir tous ces temples et tous ces palais, avec toutes ces couleurs et tous ces costumes, c'est merveilleux.
Ah, je veux bien le croire.
Ah, bon, Asialogie, c'est fini les amis, merci Didier.
Mais de rien.
N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, on attend toujours vos avis et vos suggestions.
Avec grand plaisir.
Oui, rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Salut!
Bonne semaine, à la semaine prochaine.
お客様のご協力をお願いいたします。